autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour titiller la fibre scientifique qui sommeille en chacun de nous, en tentant de répondre sérieusement et avec humour, l'un n'empêche pas l'autre, à toutes les questions possibles et imaginables. Vaut-il mieux marcher ou courir sous la pluie? Vivons-nous dans la matrice? Pourquoi rien ne se perd? Comment se propagent les ondes qui nous relient, chers amis auditeurs? Quel rapport entre un plat de lasagne et une racine carrée? Pour y répondre, notre invitée, Viviane Lalande, n'hésite pas à payer de sa personne sur sa chaîne YouTube Syllabus, comme dans son ouvrage « Le monde a des racines carrées », ouvrage dont nous avons un exemplaire à vous faire gagner, histoire de démontrer à quel point les maths en particulier et la science en général, ça peut parler à tout le monde et c'est bien plus utile au quotidien qu'on ne le pense. Autour de la question « Pourquoi le monde a des racines carrées ?» Bienvenue. Bonjour Viviane Lalande.
Bonjour.
Merci d'être venue de Montréal pour être en direct avec nous, pour partager votre science de façon ludique, légère et rigoureuse, comme vous le faites avec succès et avec passion, sur votre chaîne YouTube Syllabus, plus de 3 millions de vues, et dans cet ouvrage, donc paru aux éditions de l'Homme, auquel nous avons emprunté le titre de cette émission « Le monde a des racines carrées ». Jolie façon de nous dire, Viviane, à quel point les maths, les sciences en général, sont présentes, partageables et accessibles à tous, contrairement à ce qu'on a trop souvent tendance à croire. C'est ça votre démarche?
Bah oui, c'est exactement ça. Moi, quand je parle aux gens, souvent, des personnes non scientifiques vont tout de suite m'arrêter, avant même que j'ai eu l'occasion de dire quoi que ce soit, pour me dire « Ah non, mais moi, je ne suis pas scientifique ». Et je trouve ça un petit peu aberrant, parce que la science est tellement autour de nous que finalement, tout le monde est un peu scientifique, mais peut-être sans le savoir. Et donc, dans ce livre, ma démarche, c'était finalement de répondre à cette question de « à quoi ça sert ?» telle chose qu'on apprend à l'école, ou ceci ou cela, où on n'a peut-être pas l'impression que ça nous sert dans la vie, alors que, bah si, ça pourrait nous servir dans la vie.
Et on se rend compte que les sciences répondent à de nombreuses questions et peuvent s'appliquer à de nombreuses situations de notre vie quotidienne, mais vous pouvez aussi pousser de manière plus pointue jusqu'à ce que les chercheurs en font. On peut partir de quelque chose de basique, qui peut sembler un peu farfelu, très simple, et nous emmener très loin.
Exactement. Alors moi, j'ai une formation académique, donc j'aime beaucoup le monde de la science.
Vous venez d'être docteur en génie mécanique.
Oui,
vous avez
eu
votre doctorat la semaine dernière.
Exactement, il y a une semaine tout pile. Merci.
Bravo.
et oui, c'est ça. Donc moi, j'aime beaucoup relier la science de la vie quotidienne avec la science qu'on utilise en recherche, finalement, parce que c'est exactement la même. C'est juste qu'on ne l'utilise pas au même niveau, de toute évidence. En recherche scientifique, on va utiliser en fait toute une flopée de notions scientifiques ensemble pour faire quelque chose. Et dans les sciences plus simples du quotidien, on va peut-être avoir une, deux, trois notions connectées, mais pas autant qu'en recherche, mais finalement tout se tient, tout est sur la même base. Et donc je trouve ça, personnellement en tout cas, vraiment intéressant de ramener la science du quotidien avec la science de la recherche, parce que la racine de tout ça, le monde a des racines carrées, la racine de tout ça est la même pour les deux mondes.
Voilà l'explication de votre titre autour de la question « Pourquoi le monde a des racines carrées ?» Je vous propose tout de suite de commencer par prêter l'oreille à quelques-unes des questions les plus inouïes que vous vous êtes posées sur votre chaîne YouTube et auxquelles vous répondez en plus sur cette chaîne qui s'appelle Syllabus, Florilège, remixé par Hugo Violas.
Chaque début d'année commence souvent par un
« C'est fini, j'arrête ».
Et un régime drastique s'ensuit. C'est un nombre incalculable de kilos qui sont perdus dans les premiers mois de l'année. Mais qu'est-ce que la graisse devient?
Quelle étrange question.
On dit toujours que quand il fait chaud, il faut s'habiller en blanc pour pas avoir trop chaud justement. Mais est-ce que c'est vrai? Puis surtout, à quel point est-ce que c'est vrai? Et est-ce que ça fait vraiment une différence si j'ai un t-shirt vert ou bleu? Et on va tester ça aujourd'hui, et on est dans l'endroit parfait pour ça, parce qu'on est dans le Grand Canyon, et il fait vraiment très très chaud. Alors, c'est parti, on y va.
Enfin l'été, le soleil, la plage, les vacances, les tenues légères, mais aussi une bonne recrudescence de la fréquence de rasage ou d'épilation. Et il y a beaucoup de mythes et de croyances qui tournent autour du rasage et de l'épilation, autant chez les hommes que chez les femmes. Et on va mettre tout ça au clair aujourd'hui.
Non mais c'est hier soir, avec Gauvin, on s'est brûlé les poils des jambes avec une bougie.
Pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi les ouvertures faciles ne sont pas faciles? Et même au-delà des ouvertures faciles en fait, pourquoi le scotch finit toujours en pointe? Pourquoi personne n'arrive à peler sa tomate correctement? Pourquoi arracher du papier peint ou une affiche est un enfer, etc. etc.
Ne touche pas à ça, tu sais bien que ça m'énerve.
Ne pas gerber. Si vous avez déjà travaillé en manutention, vous savez que ne pas gerber disposé sur des cartons n'a rien à voir avec l'action de vomir.
Ah bon ?
Ne pas gerber signifie qu'il ne faut pas empiler les colis les uns sur les autres. La raison sous-jacente est plus complexe qu'il n'y paraît et est intrinsèquement liée à ça, l'ondulation du carton.
Avant de revenir sur l'ondulation du carton et les ondes en général, Viviane, signalons que votre chaîne YouTube Syllabus est la première chaîne YouTube traitant de sciences dures, tenue par une femme, qui détient le record du nombre d'abonnés dans la francophonie. C'est bien ça ?
Ben oui, tant mieux, je suis contente que ça plaise.
Pourquoi ça s'appelle Syllabus ?
Alors, Syllabus, ça s'écrit SCI, le début, donc c'est pour faire science. Un rappel à science. Ensuite, il y a Lab, pour le laboratoire, parce que je suis très versée dans les sciences expérimentales. Et puis, il y a le US derrière, qui veut dire nous, en anglais, us. Donc, qui est une science rassembleuse, finalement. Et le mot Syllabus, si on l'écrit dans sa vraie orthographe, ça se réfère à un document qu'on utilise dans le milieu académique, et qui rassemble, en fait, toutes les informations dont l'élève a besoin pour suivre son cours. Donc on a ici toutes les notions, on a la science, on a le laboratoire, on a l'aspect inclusif et on a le milieu académique qui est quand même de là d'où je viens.
Alors vous êtes issu du milieu académique, mais en même temps vous avez été frappé par le manque d'explications qu'on vous a donné hein, au cours de vos études sur que ce soit les équations, les théorèmes, pourquoi apprendre ça ? Quand on demandait pourquoi, ça semblait un peu bizarre et c'est un peu ça qui vous a mis d'abord sur la piste de cette chaîne YouTube, puis sur la piste de ce livre « Le monde a des racines carrées ».
Alors, moi, quand j'étais petite, je ne me suis jamais vraiment trop posé la question de à quoi ça sert. J'apprenais de façon assez passive. C'est plus quand je me suis rendue à l'université que je me suis rendue compte qu'il y avait un clivage, en fait, entre les personnes qui n'ont pas réussi à apprendre ces sciences et les personnes qui continuent. Et donc, c'est vraiment ce questionnement-là que j'essaie de répondre. C'est ça, d'arriver à montrer que les sciences, non, c'est pas si terrible que ça, promis.
Ça peut même être drôle.
Ça peut même être drôle, tout à fait.
Dépoussiérer, en tout cas, la science. Vous avez, on l'entend, un petit accent du Sud. En même temps, vous vivez
à
Montréal.
Fait.
Alors, oui. Expliquez-nous un peu la chercheuse que vous êtes. Vous avez d'ailleurs remporté en 2012 la première grande finale du concours ma thèse en 180 secondes. À l'époque, vous étiez à l'École Polytechnique de Montréal.
C'est ça, exactement. Donc, c'était la toute première année quand ça existait pas encore en France. Ça existait qu'au Québec. Et donc, je suis française, je viens du sud de la France. Et pour mon stage de fin d'études d'école d'ingénieur, je suis partie au Québec il y a 10 ans. Et puis, j'y suis restée. Donc, je suis aussi canadienne maintenant. Et donc d'où mon petit accent un petit peu mélangé.
Un petit peu mélangé entre le sud de la France et le Québec. Comment est-ce que vous choisissez vos sujets, Viviane Lalande ? Que ce soit pour votre chaîne YouTube, Syllabus, ou pour ce livre, Le monde a des racines carrées. Vos questions, hein, j'ai envie de dire, comment vous les choisissez ?
Alors, pour la chaîne YouTube, c'est assez facile parce que c'est plus ce qui s'impose à moi qu'autre chose, parce que ça, je vais être guidée par ma curiosité, tout simplement.
Donc si... pourquoi porter du blanc en été ?
Ben voilà, exactement. Je savais que je partais dans le Grand Canyon, donc je savais qu'il allait faire chaud, et donc au moment où j'ai choisi mes t-shirts, je me suis dit, on va faire chaud, il faut que je prenne du blanc. Mais pourquoi est-ce qu'il faut prendre du blanc ? Donc ce sont des sujets vraiment qui s'imposent à moi. Pour Le monde a des racines carrées, là, la réflexion était complètement différente, parce que je voulais vraiment partir des notions qu'on apprend à l'école, au niveau collège à peu près, pour être vraiment la base du travail. Parce que comme on me disait à quoi ça sert d'avoir appris telle chose ou telle chose, souvent les notions pour lesquelles on pose cette question datent du collège. Donc je voulais vraiment prendre des notions qui sont abordées au niveau collège. Donc là, j'ai regardé les programmes scolaires du collège français et de l'équivalent du collège au Québec. Et puis, je suis partie de ça pour après créer le contenu du livre.
Alors, le premier chapitre, autour de la question « Pourquoi le monde a des racines carrées ?» de votre livre, nous raconte des histoires ondulatoires. Il part des ondes. Alors, évidemment, les ondes, ça vous intéresse. Ça nous intéresse aussi, hein, sur
les
ondes de RFI, évidemment. Alors, comment les ondes sonores se propagent ? C'est ça que vous nous expliquez. Et vous nous expliquez aussi comment s'en servir pour s'insonoriser de ses voisins bruyants et vibratoires.
Exactement. Les ondes, de manière générale, moi, ça me fascine. C'est un de mes sujets préférés. J'avais un professeur d'université quand j'étais à la fac qui a réussi à nous rendre ça passionnant. Et depuis, j'adore ce sujet. Et donc, ça vient des ondes sonores parce que j'habitais dans un appartement qui était à littéralement 10 mètres d'une voie ferrée. Et donc, on comprend vite qu'il y a des problématiques.
Il y a des ondes sonores. Et ça secoue partout.
Et ça secoue de partout. Et ça, c'est... Alors, si ça secoue de partout, c'est parce que les ondes se propagent pas uniquement dans l'air, comme on va l'utiliser pour les ondes radio, par exemple, mais aussi dans le sol. Ça va être les bruits solidiens. Et donc, les ondes du train...
Des bruits solidiens.
Bruits solidiens et bruits aériens. Donc, on a deux types de bruits. Et quand c'est solidien, ça se transmet dans le sol, ça arrive sur les fondations de la maison, et finalement, ça se transmet dans les murs, et les murs deviennent des haut-parleurs. Donc, ça devient très, très bruyant à l'intérieur. Et pour arrêter ces bruits solidiens-là, ça devient très complexe. Et donc, c'est toute une science. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui travaillent à insonoriser des salles. Les salles de concert, par exemple, sont particulièrement pensées, pas seulement pour la... Parce qu'il y a deux mondes. Il y a le monde de l'isolation phonique, qui va s'intéresser vraiment à isoler le son du reste du monde. Et il y a la correction acoustique, qui va être là pour améliorer la qualité du son, pour être sûr que ce sont les bonnes fréquences qui arrivent à notre oreille. Donc il y a vraiment deux mondes qui vont pas avoir les mêmes solutions. Donc le monde de l'isolation phonique, là ça va être des solutions comme pour les salles de concert, ils utilisent beaucoup ça, c'est de découpler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va mettre la salle sur ressort entre guillemets, par rapport au reste du monde, et donc c'est les ressorts qui vont amortir le son. C'est ça. Alors nous on peut pas le sentir, ça peut être juste des mousses, c'est très léger, mais il va y avoir un amortissement du son par la salle elle-même. Donc ça, c'est une des façons. Le découplage, c'est la façon la plus efficace. On a aussi vous voyez dans les salles de concert, souvent il y a des trous dans les murs.
Oui.
Et ces trous-là, c'est pour qu'en fait les ondes les plus aiguës se perdent à l'intérieur, et donc pour vraiment sélectionner les ondes qu'on veut avoir au moment quand on est dans la salle et qu'on écoute le
donc
concert.
Donc on n'écoutera plus, on regardera plus de la même manière la salle de concert dans laquelle on rentre après vous avoir lu. Mais en même temps, vous commencez par les ondes sonores et commencez à s'insonoriser de ses voisins bruyants. D'ailleurs, vous avez réussi à vous insonoriser du train.
Oui, j'ai réussi, j'ai déménagé.
Ah ben voilà, ça c'est une bonne solution.
Ça a été parfait.
En tout cas, vous vous entraînez dans ce chapitre-là, jusque sur d'autres ondes, notamment ces fameuses ondes gravitationnelles qui ont été réussies à être captées, et donc jusqu'au trou noir et à la coalescence de deux trous noirs. Donc on part d'un voisin bruyant, les ondes, le son, et puis on arrive jusque au fin fond de l'espace et aux phénomènes les plus extraordinaires qui se passent dans l'espace et les plus terrifiants aussi.
Oui, exactement. Mais ce qu'il faut, c'est ça que j'aime bien particulièrement dans ce chapitre-là, c'est qu'on voit le lien direct entre la science du quotidien et la recherche. C'est parce qu'une onde, elle va se définir en fonction de son amplitude. Donc si on parle du son, ça va être le volume sonore, et de sa fréquence, plus ou moins aiguë par exemple, et puis aussi de sa phase, mais ça on n'en parlera pas, c'est un petit peu là où ça commence, c'est un peu plus complexe. Et donc elle va avoir les mêmes caractéristiques, on va avoir ces trois paramètres qui vont définir si c'est une onde, qui vont pouvoir définir une onde sonore, définir une onde gravitationnelle, définir l'onde d'une vague, etc. etc.
Parce que tout ça ce sont des ondes.
Ça ce sont des ondes. Alors il y en a qui sont mécaniques comme les vagues, et d'autres qui sont électromagnétiques comme les ondes radio par lesquelles vous nous écoutez en ce moment. Et donc ces ondes-là, on arrive aux ondes gravitationnelles qui sont là des perturbations de l'espace-temps, donc où on est capable de mesurer l'amplitude et la fréquence d'une combinaison d'ondes, et après de remonter, d'arriver à faire le chemin inverse pour arriver à trouver quel a été l'événement qui a créé ces ondes-là.
Et tout ça grâce aux ondes, un des sujets les plus passionnants de la physique pour vous, je crois. Yann Allende, et pour nous aussi sur RFI, évidemment. Autour de la question pourquoi le monde a des racines carrées sur nos bonnes ondes, nouvelle question pour vous, soulevée par un physicien qui est aussi philosophe, le chercheur Alexei Greenbaum du CEA, qui était récemment notre invité.
J'ai une question pour vous, Viviane Lalande. Alors, vous communiquez de la connaissance scientifique à travers les métaphores, à travers vos éclairages, mais communiquez-vous la beauté de la science? Avez-vous un moyen de faire ressentir à votre public ce que ressent un mathématicien?
Votre réponse, Viviane Lalande.
Bonne question. Déjà, la beauté est toute relative en fonction de chaque personne. Donc, j'ose espérer que oui, mais ce sera au public de le déterminer. Je pense aussi qu'il y a plusieurs beautés. Moi, ce que je trouve comme la beauté qui me frappe le plus, c'est quand on a un objet du quotidien, par exemple le carton ondulé, le carton des boîtes qu'on reçoit.
Qu'il ne faut pas gerber.
Et qu'il ne faut pas gerber, exactement. Ces boîtes-là, on les utilise dans la vie du quotidien et sans les regarder. Mais si tout d'un coup on se met à les regarder et qu'on s'intéresse vraiment à la science de pourquoi est-ce qu'il y a une ondulation à l'intérieur du carton. Et bien là, tout d'un coup, on a une autre dimension. Et donc, on a une nouvelle compréhension. Et moi, c'est ça que je trouve beau personnellement, c'est quand la science peut amener un nouveau regard sur quelque chose qui fait partie de notre vie depuis toujours et qu'on ignorait. Donc pour moi, ça c'est la beauté selon mon critère.
Un changement de regard ou un regard plus profond sur quelque chose qu'on ne remarquait même plus, c'est aussi une manière de titiller vraiment notre curiosité.
J'espère, oui.
Et vous poussez encore plus loin le bouchon en vous demandant, dans ce livre, Le monde a des racines carrées, dont je vous rappelle à mes auditeurs que nous avons un exemplaire à vous faire gagner, vous demandez si nous vivons dans la matrice.
Oui, c'est ça. Ben, la matrice, ça va être...
Alors, c'est pas de la science-fiction,
non,
c'est
pas
une équation mathématique. Hein.
Exactement. Disons que... C'est le titre qui est comme ça, mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on vit dans une simulation informatique ? Parce qu'il y a il y a Elon Musk qui est un grand entrepreneur américain.
Qui veut nous emmener très loin dans l'espace.
Exactement. C'est lui qui a dit ça, une des personnes qui a dit ça. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut savoir si on est dans une simulation informatique ou pas ? Est-ce qu'on est en train de vivre quelque chose qui est réel ou quelque chose qui a été préprogrammé ? Et c'est toute la question du film Matrix. Donc on peut se poser cette question qui est plus philosophique que scientifique finalement. La philosophie est une science, donc plus philosophie que science dure, mettons. Et donc on peut se poser la question. Et moi j'aime beaucoup cette image-là parce que c'est quelque chose que j'ai personnellement ressenti quand je suis arrivée à l'université et que tout à coup on mettait en pratique un petit peu tous les phénomènes scientifiques qu'on avait vus à l'école. Et avec cette mise en pratique, j'avais ce nouveau regard dont je parlais tout à l'heure. J'avais un nouveau regard sur tout ce qui m'entourait. Et donc moi j'ai l'impression de vivre dans la matrice dans le sens où je suis capable.
Attendez,
vous
êtes bien là, en chair et en os.
Je suis là,
les
auditeurs
sont,
exactement,
sont à l'écoute.
Mais j'ai l'impression qu'on vit dans la matrice, dans le sens où on a simplement plusieurs filtres qu'on peut analyser, mais ça ne veut pas dire qu'on est contrôlé non plus par des équations mathématiques. Nous, on arrive à modéliser notre monde, une partie de notre monde, pas entièrement, mais ça ne veut pas dire qu'on est manipulé par des machines.
Au fond, vous pourriez suivre Galilée, hein, quand il dit l'univers, le monde est-il écrit en langage mathématique, c'est un peu ça aussi, vous nous emmenez jusque-là.
Bah oui, moi je suis assez d'accord avec ça. Alors, on ne peut pas aujourd'hui entièrement modéliser notre monde avec des équations mathématiques, mais on s'en rapproche beaucoup. Les jeux vidéo sont finalement le meilleur exemple de ça. C'est que finalement, quand on va vouloir modéliser le cœur d'une fleur, eh bien, il va falloir avoir une équation mathématique pour un cercle. Quand on va vouloir modéliser les pétales, il va falloir avoir l'équation mathématique pour une espèce de rectangle arrondi. Puis si on se met à interagir, s'il y a de la pluie, si on la cueille, si on la respire, il va y avoir tout un tas d'autres phénomènes. Et tout ça, il faut à nouveau les exprimer de façon mathématique. Et donc, on a toute une succession d'équations qu'on peut utiliser pour représenter de façon la plus réaliste possible notre monde.
Et là encore, ça peut donner un autre regard ou une autre dimension à un jeu vidéo.
Exactement. Et on revient à la beauté des mathématiques, où là, les personnes qui travaillent là-dedans ont certainement une autre vision de ce qu'est la beauté des sciences.
Autour de la question pourquoi le monde a des racines carrées, je vous rappelle à mes auditeurs que nous avons donc un exemplaire de cet ouvrage à vous faire gagner à l'écoute d'Amadou et Mariam sur RFI, la réalité.
Il faut que d'autres naissent, d'autres meurent.
Amadou et Mariam sur RFI, la réalité autour de la question « Pourquoi le monde a des racines carrées ?» Titre du livre de notre invitée, la youtubeuse Viviane Lalande, qui n'aime rien tant que titiller notre fibre scientifique et notre curiosité sur sa chaîne YouTube Syllabus, mais aussi avec d'autres formidables youtubeurs de science, toute une jeune génération qu'on apprécie tout particulièrement, comme Léo Grasset de Dirty Biology, avec qui vous participez, Viviane, à une nouvelle chaîne collaborative de vulgarisation scientifique, ça s'appelle Vortex, lancé par Arte avec le CNRS. Juste pour le plaisir, voici en avant-première un extrait de l'épisode qui sera mis en ligne le 17 avril, où l'on vous retrouve, Viviane Lalande, pour un duo improbable avec Léo Grasset autour des os. Les os sont-ils des imprimantes 3D comme les autres? Vous sortez même les griffes pour y répondre.
Ok, alors reprenons. Pour que je fabrique des griffes à la manière des os, on va d'abord s'intéresser aux os en eux-mêmes. Pendant toute notre croissance, notre corps grandit, et pour passer d'une simple cellule aux milliards que nous représentons aujourd'hui, nous n'avons pas été moulés ni sculptés. Notre croissance vient de l'intérieur de nous, alimentée par les nutriments que nous ingérons. Nous sommes, en quelque sorte, un cas naturel de fabrication additive.
Attends, elle vient de nous caser son imprimante 3D, là ?
La nature se construit essentiellement de cette façon, d'ailleurs. Que ça soit des coraux, cette toile d'araignée, ou même nous, le vivant est créé en sorte de couches qui prennent de plus en plus d'ampleur.
Tu peux chipoter ?
T'es même pas dans le cadre, Léo.
Bon, alors déjà, c'est clair que le vivant adore ajouter des couches les unes aux autres pour fabriquer. Y'a qu'à voir comment se passe la fabrication des coquilles de mollusques qui sont en strates successives de calcium. Les lambis, qui sont des énormes gastéropodes consommés aux Antilles, c'est très bon, ont une coquille qui est faite de couches entrecroisées de calcaire. Imprégnée de protéines et autoréparatrice, la coquille a une structure dont le design au niveau microscopique la rend extrêmement résistante. Ce qui est pratique parce que les tortues essayent de les bouffer. On peut aussi citer la croissance radiale des troncs d'arbres qui se fait grâce à un tissu qui est nommé le cambium, qui rajoute patiemment, année après année, des couches de cellules qui feront plus tard le bois. Bref, ouais, l'addition, ça fonctionne, mais faut pas négliger d'autres processus comme l'apoptose. Cette mort cellulaire programmée sculpte les organismes en faisant disparaître des volumes de cellules ici et là. Nos doigts commencent par exemple leur vie en étant immergés dans une masse de chair, une sorte de grosse mouffe qui sera plus tard découpée dans la forme de la main actuelle. Voilà, je chipote un peu, mais en vrai, je voulais surtout te donner un coup de main.
Ah ouais, c'est ça, à demain.
Un coup
allez,
de main,
allez,
main.
Oui, c'est bien, à demain.
À demain et à deux voix, voire trois, même sans les images, c'est pas facile à la radio.
Oui.
C'est toujours drôle, et c'est jamais vulgaire. Pourtant, on parle de vulgarisation scientifique. Voilà, moi, un mot qui m'énerve un petit peu.
Ah oui, c'est pas un joli mot, je suis assez d'accord. J'aime beaucoup le mot anglais de science outreach, qui est donc d'atteindre les gens qui sont à l'extérieur. Mais c'est ça, le mot en français, malheureusement, c'est vulgarisation. Alors,
voilà, faire passer les sciences, titiller notre fibre scientifique. Parce qu'en l'occurrence, là, dans cet épisode de Vortex, on apprend à la fois, au fond, comment fonctionne une imprimante 3D en couche, hein, comme presque tout le vivant. Au passage, Léo nous faisait découvrir l'apoptose, la mort programmée des cellules. Enfin, c'est vraiment, comment dire, du lourd, du sérieux, mais abordé de manière extrêmement légère, avec ton de moquerie tout le temps dans la voix.
Oui, bah c'est l'objectif. On a créé une sorte de colloque de vulgarisateurs, hein, de youtubeurs.
Oui, aucun des mots n'est joli,
mais bon. Choisissez
le terme
qui vous plaît. Et donc, on était quatre, donc avec Clotilde de Passé Sauvage et les post-process, donc et Léo et moi. Et donc, on intervient chacun dans les vidéos des autres, et puis donc dans une ambiance un peu colloque pour parler de sujets scientifiques. Et oui, il n'y a pas trop de détours, on parle vraiment de science. Et puis jusqu'à présent, ça a l'air de plaire. Alors,
il n'y a pas de concurrence entre vous. C'est assez étonnant d'ailleurs parce qu'au fond, voilà, toute cette génération, il y en a pas mal aujourd'hui de jeunes youtubeurs et youtubeuses. En même temps, vous avez chacun un style différent, mais il y a à chaque fois les mêmes ingrédients. Il y a de l'humour, il y a du sérieux. Il y a une concurrence entre vous. C'est, jeune passeur de science.
C'est assez difficile de répondre à cette question parce qu'on ne sait pas trop comment est-ce que l'audience réagit face aux vidéos. Donc si on comprenait exactement comment l'audience réagit, on serait capable de dire si on est en compétition ou non.
Faudrait rentrer dans la matrice.
Exactement, faudrait rentrer dans la matrice du merveilleux algorithme de YouTube que personne ne connaît. Mais je pense qu'on a tous nos voix et on a tous quelque chose à apporter de différent. Alors je pense que cette collaboration, elle montre bien que, en tout cas, s'il y a une compétition, elle n'est pas à l'échelle humaine entre nous.
C'est ça. Vous êtes en tout cas tous des empêcheurs de penser en rond, des empêcheurs de tourner en rond. Tiens, ça c'est un des chapitres de votre livre, Le monde a des racines carrées, où vous nous parlez du mouvement perpétuel, c'est ça ?
Oui, c'est ça, le mouvement perpétuel qui ne peut pas être une source d'énergie. Et j'avais repris l'exemple qui était passé sur une chaîne de télé. Est-ce que j'ai le droit de donner le nom de la chaîne ? Sur M6, il y a en 2012, c'était sur l'inventeur de l'année 2012, je pense, ça s'appelait comme ça. Et il y avait un jeune homme qui était venu présenter un moteur révolutionnaire qui n'avait pas besoin de carburant, mais qui ne pouvait pas fonctionner parce que physiquement, on ne peut pas tirer de l'énergie à partir de rien. Ce qui est assez logique finalement. Dans notre voiture, si on met pas de carburant, on n'avancera pas. Et c'est un principe fondamental. Et malheureusement, le jury n'avait pas conscience de ce principe fondamental et ils avaient été dithyrambiques face à ce projet.
Qui allait résoudre tous nos problèmes énergétiques.
Mais qui malheureusement a été basée sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors il venait avec une petite maquette qui, elle, fonctionnait parce qu'elle n'utilisait pas ce principe. Et finalement, il n'est jamais réapparu à l'émission. Donc je voulais un petit peu mettre les pendules à l'heure, au moins dans mon livre, au moins à l'échelle de mon livre, sur le fait que ce que vous avez vu, c'est pas un lobby de l'automobile qui a empêché ce jeune homme d'avancer avec son moteur, mais bien un problème scientifique.
D'où l'intérêt d'avoir des notions scientifiques et
exactement.
Des notions éclectiques aussi dans tous les domaines pour arriver à voir ce qui peut marcher ou ce qui ne peut pas marcher. On a reçu aussi d'autres chercheurs qui se penchent sur le passé, sur des inventions folles du passé qu'on pourrait revisiter aujourd'hui avec des nouveaux matériaux dans des nouveaux laboratoires. Donc tout est aussi source, finalement, rien ne se perd. Il faut de l'énergie pour faire quelque chose, mais rien
exactement.
Ne se perd et tout peut se transformer.
Exactement.
À ce sujet, pourquoi le monde a des racines carrées et comment justement le faire passer ? On a parlé de ces mots vulgarisateurs, passeurs de science. Je vous propose un nouvel éclairage en forme de question, soulevé par un chercheur en informatique qui s'appelle Fabien Tarissant, qui était récemment notre invité autour de la question des réseaux. Il est lui-même très intéressé par la médiation scientifique et il a une question pour vous, on l'écoute.
C'est un nouveau média qui est très prisé, alors notamment par les jeunes, mais pas simplement. Il n'y a pas que des jeunes qui se servent de YouTube pour trouver des pépites comme ça de scientifiques. Et je trouve que c'est très, très intéressant. Et est-ce que... Ce n'est pas tellement une question, mais une remarque. Je pense qu'il y a quelque chose à faire pour mettre en relation des chercheurs, typiquement, enfin la communauté scientifique au sens large, avec tous ces nouveaux médiums de communication et de diffusion de la science. Donc on sait à peu près faire... C'est-à-dire que quand on cherche à faire la médiation, on sait faire à peu près à travers l'écrit. On sait parfois un peu faire à travers les radios et à travers la télé. Et toutes ces formes de communication nouvelles, elles sont justement plus nouvelles et on n'a pas forcément les codes, les clés et on se sent parfois un petit peu en décalage avec les discours qui sont véhiculés. Donc comprendre comment travailler notre discours pour en faire quelque chose d'audible sur des médias comme YouTube. Et donc voilà, là il y a quelque chose à faire et donc c'est plus une remarque et une
presque
envie.
Un appel, hein.
Presque un appel.
Que pouvez-vous répondre, Viviane Lalande, à cet appel, hein, finalement, du chercheur Fabien Tarissant ?
Il y a beaucoup de choses à en dire. C'est sûr que moi, je donne des formations au Québec pour ces personnes qui veulent se lancer sur YouTube et savoir trouver un petit peu leur voie.
Pour des chercheurs ou pour des jeunes scientifiques ?
Pour qui voudrait. Donc, il y a des ressources pour trouver, mais c'est sûr que le langage d'Internet a ses propres codes. Mmh. Et je pense que la première chose à apprendre, c'est finalement d'être un auditeur, un spectateur de ces vidéos-là pour comprendre les codes et éventuellement les réexploiter. Après, moi, je pense qu'il y a tout un écosystème. On n'a pas forcément besoin que les chercheurs deviennent des youtubeurs. S'ils en ont envie, c'est une chose, mais ils sont pas obligés de le faire. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de youtubeurs, je fais souvent ce lien-là, c'est-à-dire que pas plus tard que la semaine dernière, je suis allée rencontrer 4-5 chercheurs pour faire des vidéos, et donc je me propose de faire le lien entre la recherche qu'ils ont faite et finalement la vidéo que je vais diffuser.
Oui, mais vous, en tant que transmetteur,
Exactement. En tant qu'intermédiaire. Exactement, en tant qu'intermédiaire.
En tant que média, finalement.
Finalement, oui, à mon échelle, à moi. Mais donc c'est ça, donc je pense qu'il y a le fait qu'il faut accepter qu'on est dans un écosystème aussi, que chacun a sa place, et si on veut changer de place, il n'y a aucun problème avec ça, mais il y a des outils aussi pour le faire. Et la première chose à faire, c'est d'être soi-même spectateur de ce qu'on veut devenir, finalement.
Et vous-même, parce que vous avez été avec vos autres collègues youtubeurs, vous êtes des pionniers finalement, parce qu'il n'y en avait pas trop avant. Est-ce qu'il a fallu effectivement trouver un langage, une manière de faire? Alors, il y a des images aussi, mais ça demande, j'imagine, beaucoup de travail pour que ça semble aussi léger et drôle que ça. Mais vous en avez eu l'idée? Comment vous êtes arrivé finalement à être youtubeuse, à être sur le net aussi présente que ça? Parce que votre site, il marche très très bien.
Alors, moi, j'ai commencé la vulgarisation scientifique il y a quasiment une dizaine d'années, mais par le biais de blogs. Donc j'écrivais de la science, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que même moi, finalement, je ne lisais plus de blogs et je faisais que regarder des vidéos, souvent en anglais parce que ça n'existait pas trop encore en francophone. Et donc je me suis dit, si je ne suis moi-même pas le public de ce que j'écris, il y a un problème. Et donc c'est pour ça que j'ai changé vers les vidéos. Et la difficulté des vidéos, pour moi, ça a été plus les aspects techniques, parce qu'il y a beaucoup de compétences techniques à acquérir. Donc évidemment, mon discours a progressivement changé. Les vidéos, si on regarde celles qui sont publiées aujourd'hui par rapport à celles d'il y a 5 ans, on est dans deux mondes complètement différents. Le rythme n'est pas le même. La notion du rythme, c'est quelque chose qui s'apprend aussi, mais parfois difficilement, parfois facilement, ça dépend pour qui. Et donc voilà, donc c'est vraiment, je pense, une progression. Moi, j'ai suivi le parcours un petit peu, je dirais, classique des gens qui sont là depuis longtemps sur la plateforme, qui est que je ne savais rien au début. Et à chaque vidéo, finalement, j'ai appris une nouvelle chose pour une nouvelle compétence ou une nouvelle technique ou une nouvelle notion du rythme pour améliorer la vidéo suivante.
La curiosité est partout, finalement, dans tous les deux. Mais en même temps, vous le disiez, Viviane, il n'y a pas tant que ça. Enfin, il y en a maintenant, des blogs scientifiques en français, donc francophones, pour le monde francophone. Il y en avait beaucoup plus en anglais, en américain, donc pour le monde anglo-saxon, disons.
Mais des blogs ou des vidéos?
Les vidéos.
Oui, les vidéos, en anglophone, il y en a énormément. Là. Et puis, on ne parle pas du tout de la même grosseur d'audience. Hein. Le plus gros en anglais, je pense qu'il a 10 millions d'abonnés. Et le plus gros en français doit avoir 2 millions. Après, ça dépend où on place le curseur de la vulgarisation par rapport au divertissement aussi. Donc, il peut y avoir des controverses sur ce sujet-là.
Bien sûr, il faut que ce soit sérieux. Il faut qu'il y ait une vraie base scientifique, qu'on apprenne quelque chose. Enfin, sérieux,
ça dépend.
Sérieux et drôle.
Moi, je ne sais pas trop où placer le curseur, parce que moi-même, je vais être consommatrice de vulgarisation très légère avec beaucoup de divertissement, mais aussi de vulgarisation plus intense avec très peu de divertissement. Et je pense que c'est aussi un écosystème où on a la possibilité de consommer tous les types de vulgarisation, donc ils sont tous bienvenus.
Ils sont tous bienvenus avec il faut dire des choses justes. Enfin là, c'est quand même le curseur, il doit être mis là.
Effectivement, moi, mon curseur, il est là à partir du moment où c'est juste la quantité de divertissement qu'on y ajoute, ça c'est propre à chacun, mais oui, effectivement la rigueur de l'information est importante. Ce qui est difficile avec YouTube parce qu'on ne peut pas se corriger, contrairement à un article ce qui est écrit qu'on peut éditer du moins sur internet, pas sur les livres, mais les vidéos, on peut pas les corriger. Donc s'il y a une erreur, elle est là pour toujours.
Et est-ce qu'il y a un sujet, une question, quelque chose que vous n'arrivez pas à traiter, par exemple?
Oui, c'est le sujet de l'IRM, donc l'imagerie par résonance magnétique. J'ai travaillé pendant 2 ans dans le monde des IRM, je faisais de la recherche scientifique, et c'est une machine qui me fascine, que je trouve fascinante. J'adore cette machine et j'aimerais beaucoup, j'ai un projet de documentaire depuis des années en tête et j'arrive pas à le produire parce que je pense que j'ai trop à cœur de le réussir, alors j'ai peur de me lancer. Donc,
vous savez peut-être trop de choses aussi là-dessus, non?
Non, je pense que l'IRM,
on sait jamais trop de choses,
non, c'est trop complexe.
Autour de la question, pourquoi le monde a des racines carrées et pourquoi la Terre est ronde? Réponse d'Aurel San sur RFI.
Autour de la question, Caroline Lachowski.
Au fond, je crois que la Terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison.
T'as besoin d'une voiture pour aller travailler, tu travailles pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter. Tu vois le genre de cercle vicieux, le genre de truc qui donne envie de tout faire sauf de mourir vieux. Tu peux courir à l'infini, à la poursuite du bonheur. La Terre est ronde, autant l'attendre ici. Je suis pas feignant mais j'ai la flemme, et ça va finir en arrêt maladie pour toute la semaine. Je veux profiter des gens que j'aime, je veux prendre le temps avant que le temps me prenne et m'emmène. J'ai des centaines de trucs sur le feu, mais je ferai juste ce que je veux quand même.
Au fond, je crois que la Terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est
rappeur Quinry donne les mêmes conseils que mes parents. Fais ce que tu veux dans ta vie, mais surtout fais de l'argent. J'essaye de trouver l'équilibre. À quoi ça sert de préparer l'avenir si t'oublies de vivre? En caleçon qui me sert de pyjama, au lieu de lécher mon patron pour une avance qui me filera pas. Ce soir je rameuterai l'équipe en attendant merci d'appeler, mais s'il te plaît parle après le bip. Aujourd'hui je me sens bien, je voudrais pas tout gâcher, je vais tout remettre au lendemain. Y'a vraiment rien dont j'ai vraiment besoin, on verra bien si je me perds en chemin. Au fond, je crois que la terre est ronde pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Au fond, je crois que la terre est ronde pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison.
Aurel San sur RFI, la Terre est ronde, autour de la question pourquoi le monde a des racines carrées, titre du livre de notre invitée, la youtubeuse et auteure Viviane Lalande. Livre dont nous avons, je vous le rappelle, amis auditeurs, un exemplaire à vous faire gagner si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook. Avis aux amateurs. Et puis Viviane, on se dit aussi en écoutant Aurel San que la musique, le rap, tout peut être vecteur d'une forme de culture scientifique au fond.
Ah oui, tout à fait. Il y a des, c'est dommage, j'ai pas le titre en tête, mais il y a des chansons scientifiques pour les enfants aussi qui existent. Donc oui, tout à fait. Pour moi, tous les médiums, tous les médias peuvent être vecteurs de vulgarisation.
Et même le théâtre. Je vais vous proposer maintenant d'écouter l'entrée en scène de l'astronome belge Yael Nazé, qui a même choisi de se mettre justement en scène dans un spectacle assez osé où l'on découvre Yael Nazé perché sur un tabouret de bar en barésie et talons hauts. On y va.
Bonsoir. Je fais le plus vieux métier du monde. Ça m'a pris très jeune, j'avais 10 ans. La fascination du monde de la nuit, je suppose. Je suis astronome. Le plus vieux métier du monde, si. Plus vieux même que l'humanité, vu que certains animaux utilisent le ciel pour s'orienter. La majorité des étoiles, particulièrement les étoiles massives, vivent en couple. Alors, il faut savoir que quelque part, mon travail, finalement, c'est un peu de la thérapie de couple. Oui, parce que figurez-vous qu'il y a beaucoup de pratiques différentes. Il y a de l'échangisme, des ménages à 3, à 4, voire à 5 ou 6. Ça va, vous êtes prêts?
Je ne sais pas si vous êtes prêts pour ce moment astronomique, quand l'astronome Yael Nazé se met donc en scène pour une étrange conférence scientifique. Et ça marche, ça fonctionne.
Ah ben c'est super, j'adore. Moi, je suis très friande de ce genre de format-là. Je suis assez admirative d'avoir autant de talent, en fait, d'être capable de vulgariser et être capable de monter sur scène et de délivrer un texte de façon scénique, de façon théâtrale. C'est aussi toute une compétence. Il y a tout un art dans le fait d'amener de la science. C'est très complexe d'amener de la science sans amener uniquement du jargon et d'en faire quelque chose de théâtral, c'est-à-dire d'avoir une belle histoire, d'emporter les gens. Il y a une vraie subtilité dans le texte à aller chercher et c'est quelque chose de très complexe. Donc,
comment vous procédez justement pour vous? Là, vous êtes de passage à Paris, vous travaillez sur vos vidéos pour votre chaîne YouTube Syllabus. Comment est-ce que vous procédez? Vous faites feu de tout bois quand vous êtes quelque part, vous allez rencontrer des chercheurs. Comment vous faites?
Oui, en général, quand je bouge, j'essaie de rencontrer des gens qui sont sur place. Là, à Paris, je vais tourner au total 7 vidéos, du moins 7 entrevues avec des chercheurs que j'avais contactés au préalable. Et donc, moi, ma façon de fonctionner, c'est que je lis un petit peu leur recherche, je prépare un petit peu mes questions et ensuite, pendant l'interview, je leur pose des questions, mais je les laisse aller là où ils veulent aller aussi. Et puis, on voit où est-ce qu'ils m'amènent. Et à partir de ça, après, je réécoute l'interview, puis je crée le texte autour de ça. Parce que souvent, quand on va voir un chercheur, on a préparé quelque chose, mais ils ont certainement un œil qui est très différent et cet œil peut être très intéressant à exploiter. Donc
ça peut vous faire poser aussi d'autres questions, soulever d'autres questions en chemin, j'imagine. De changer de point de vue, en tout cas dans ce livre, Le Monde a des racines carrées, vous nous invitez à changer de point de vue sur nos cartes du monde grâce ou à cause de la trigonométrie. Expliquez-nous ça.
Oui, exactement. Donc notre monde, j'espère que je n'apprends rien à personne, est rond.
On vient de l'entendre avec Aurel San, donc on l'a rappelé.
C'est
donc
bon,
ça déjà
on
le sait.
Ouais. Donc c'est un globe. Et le problème du globe, c'est que le même que quand on épluche une orange, en fait. Quand on épluche une orange et qu'on enlève toutes les épluchures, on ne peut pas le mettre à plat. Si on le met à plat, on va créer des trous quelque part, on va devoir étirer. Eh bien, c'est la même chose quand on passe du globe à une carte à plat. On ne peut pas, il est mathématiquement impossible, de passer d'un globe à quelque chose en deux dimensions à plat. Mais on essaie quand même de le faire parce qu'on a quand même besoin de cartes. Et donc on le fait par un système qui s'appelle des projections. Donc on va faire des projections, un point sur une carte, on va venir le projeter sur un point sur le globe, pardon, on va venir le projeter sur une carte.
On connaît tous la projection de Mercator.
Exactement. Et cette projection-là, malheureusement, elle a des défauts parce qu'on a dû étirer dans tous les sens parce que sinon, il y aurait des trous, cette pelure d'orange dont on parle. Et la problématique de cet outil de projection mathématique, c'est que les projections donc, sont faites à partir du théorème de Pythagore et du théorème de Thalès. On utilise vraiment ça pour projeter.
Au passage, voilà à quoi sert entre autres le théorème de Pythagore
exactement,
et le théorème de Thalès.
Que tout le monde demande. Donc ça sert par exemple à projeter les cartes. Et donc la problématique de ça, c'est que c'est un outil qui est a priori dénué de sens politique parce que c'est juste un outil, c'est des maths, on lui donne pas de sens. Mais notre utilisation fait qu'on a des implications géopolitiques là-dedans.
Et oui, parce que si on fait un aplat et qu'on regarde la France et qu'on met la France au milieu, elle est énorme, gigantesque.
Exactement.
Et autour, il n'y a plus rien. Et si on fait la même carte du côté du continent africain, ça ne donnera pas la même chose, c'est ça hein?
Oui, c'est ça. La projection de Mercator, donc la plus connue, comme vous disiez, je pense que l'exemple le plus connu, c'est de comparer l'Afrique et le Groenland, qui sont à l'œil à peu près de la même taille, alors que le Groenland est 15 fois plus petit que l'Afrique. Donc l'Afrique devrait avoir une place beaucoup plus prépondérante sur la carte que les autres continents. C'est un cinquième des terres immergées. Un cinquième des terres immergées, c'est énorme.
Et si l'Afrique n'a pas cette place-là sur nos cartes en général, c'est à cause de la trigonométrie.
C'est à cause de la trigonométrie, mais c'est aussi parce que finalement, ils ont choisi une projection mathématique qui leur était favorable et les personnes qui ont projeté les premières cartes et venaient d'Europe.
Voilà, donc ils ont choisi chez
ils
eux.
Ils ont choisi leur centre du monde.
Voilà. Et ils ont choisi leur regard. Donc finalement,
exactement,
ça nous apprend aussi que les choses peuvent changer selon la manière dont on les regarde.
Tout à fait. Donc les mathématiques, a priori, c'est neutre, mais pas son usage.
Pas son usage. Allez, encore un petit qui va peut-être nous servir à table. Pourquoi la réussite d'un plat de lasagne, puisque le monde a des racines carrées, dépend précisément de la racine carrée? Mon plat de lasagne et la racine carrée.
Oui, alors ça
vient. C'est carré, hein, le plat de lasagne. Hein.
Oui, alors ça ne vient pas de là. Ça vient plutôt du fait que quand on a l'habitude de faire un plat de lasagne, on va le faire pour 4 personnes, mettons. Et si tout d'un coup on a 8 personnes à table, donc on fait le double du plat de lasagne. Mais est-ce qu'il faut doubler le temps de cuisson ou est-ce qu'on le multiplie par 3 ou par 4, etc. Et donc ça, on va s'intéresser finalement à la façon dont la chaleur se diffuse à l'intérieur du plat. Et donc je donne l'information dans le livre, mais donc cette chaleur qui se diffuse, ça va être dépendant de la racine carrée. Et donc finalement, si on double l'épaisseur d'un plat, ça va pas être il va pas falloir faire cuire le plat pendant 2 fois plus longtemps, il va falloir le faire cuire 4 fois plus longtemps. Par exemple.
Et ça marche pour toutes les recettes.
Pour
hein, c'est ça, hein.
Plat
on peut l'employer
lasagne,
en cuisine.
Steak, n'importe quoi.
Alors, c'est un peu plus compliqué, on va peut-être pas y aller tout à fait, mais vous nous proposez aussi un changement de regard sur la lévitation. C'est pas possible de léviter hors si.
Effectivement, il y a de la lévitation partout. En ce moment, on est assise.
Et on est en train de léviter.
Et on est en train de léviter. Mais en fait, c'est tout est dans la définition de qu'est-ce que le contact, qu'est-ce que le toucher finalement. Et à l'échelle atomique, vraiment à la toute petite échelle, nos atomes ne se touchent littéralement jamais, dans le sens où il n'y a pas de contact. Mais par contre, les forces électriques qui sont là, par l'électron, par le proton, elles se repoussent. Et donc finalement, le contact, ce n'est pas qu'un atome se touche avec un autre atome, c'est finalement qu'ils interagissent entre eux par le biais de la force électrique.
Donc tout lévite en nous, tout l'infiniment petit, nos atomes lévitent.
Et notre définition du contact, finalement, ce n'est pas le contact d'atome à atome, mais une déformation, une interaction entre les atomes.
Est-ce que ça change quelque chose de savoir ça, Viviane Lalande, dans vos rapports avec les autres humains, avec le fait que là, je vous vois bien assis sur la chaise et en train de toucher la table et de parler devant ce micro?
Moi, je trouve ça intéressant. Je trouve ça passionnant de savoir qu'à l'échelle atomique, eh bien, il y a un autre regard et que la définition du contact, finalement, la définition du toucher, eh bien, elle n'est pas si simple que ça. Alors que ça nous semble évident. Mais non, si on rajoute la couche scientifique, si on regarde avec un microscope très très puissant, eh bien finalement, la notion de toucher, il va falloir la redéfinir et l'approfondir.
Finalement, ça vous entraîne aussi pas du côté de la philosophie, mais ça change quand même le regard qu'on porte sur le monde. C'est-à-dire que, à la fois, vous nous faites passer très simplement des notions qui sont très compliquées. Et c'est pas que ça nous complique l'affaire, simplement ça nous pose plus de questions, c'est ça. Ça nous permet d'ouvrir un peu notre curiosité, d'aller un peu plus loin.
Oui, c'est ça. Mais c'est ce que j'espère faire, en tout cas. C'est pas tant de rajouter de la complexité, mais juste de rajouter de la compréhension, juste de voir que le monde a plusieurs couches de compréhension. Et ça, c'est mon regard à moi, c'est parce que j'ai mon propre filtre. Mais quelqu'un en philosophie, en sciences humaines, va voir dans le carton ondulé dont on parlait tout à l'heure quelque chose de différent, très certainement. Et donc, c'est intéressant d'avoir un petit peu les filtres de chacune des personnes. Et donc, mon contenu à moi que je propose, c'est un de mes filtres, c'est mon filtre à moi, mais c'est intéressant de voir le même sujet traité par d'autres personnes qui ont des compétences différentes.
Et maintenant, qu'est-ce que vous projetez, j'ai envie de dire, puisqu'on était dans les projections, Viviane Lalande, donc ce livre, Le Monde a des racines carrées, votre chaîne YouTube Syllabus, vous venez d'être docteur en physique...
Génie mécanique.
En génie mécanique, excusez-moi. Qu'est-ce que vous projetez là, de continuer à partager votre science, d'aller aussi en labo peut-être, continuer les recherches, qu'est-ce qui vous intéresserait le plus?
Moi, je suis assez ouverte à beaucoup de choses et j'aime beaucoup les deux. J'aime beaucoup la science et j'aime beaucoup la communiquer. Donc, dans un monde idéal, je ferai les deux. En ce moment, donc depuis une semaine, vu que j'ai eu mon doctorat la semaine dernière, depuis une semaine, je suis à 100% sur YouTube pour faire des vidéos, faire de la vulgarisation, de manière générale sur d'autres médias. Mais idéalement, j'aimerais bien arriver à combiner les deux mondes.
C'est le meilleur que l'on puisse vous souhaiter. Amis auditeurs, si vous avez encore faim, si vous en voulez encore de cette science à la fois pointue et amusante, il ne me reste plus qu'à vous renvoyer sur ce livre, donc Le Monde a des racines carrées, votre livre, Viviane Lalande, paru aux éditions de l'Homme, dont nous avons, je vous le rappelle, un exemplaire et un seul à vous faire gagner. Il vous suffit de nous le demander par mail ou sur notre page Facebook. Et puis vous trouverez également sur notre page les liens sur votre chaîne YouTube Syllabus, sur la chaîne collective Vortex et puis plus aussi affinité. Mais à oui. Bientôt, quand vous repassez par Paris, vous revenez nous voir.
Avec bien. Plaisir.
Autour de la question @rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs, pour continuer de titiller notre fibre scientifique mais aussi musicale. Autour de la question, pourquoi tant de langage, de l'écriture musicale jusqu'à la programmation informatique en passant par beaucoup d'autres langages. Pourquoi ce dont on ne peut parler mais que l'on veut transmettre, il faut parfois l'écrire. Réponse à suivre demain avec Hugo Violas à la réalisation et Juliette Brault en coulisses. Merci de votre fidélité, de votre interactivité. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, ce sera bientôt l'heure d'un prochain journal.